Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
De la maison du nazi à Trat, il ne reste rien. À l'intérieur, un corps calciné, mais est-ce bien celui de Joachim Pepper? Le cadavre carbonisé d'une longueur de 80 cm ne peut être formellement identifié. Pepper est-il vraiment mort dans cet incendie?
Bonjour, Joachim Pepper était l'un des plus jeunes colonels SS décorés par Adolf Hitler en personne. Il était aussi un criminel de guerre, jugé et condamné à mort en 1946, une peine capitale commuée en prison. À sa sortie, on va perdre la trace de l'officier nazi, lequel va réapparaître 30 ans plus tard au fin fond d'un village de Haute-Saône. Quand sa maison va prendre feu une nuit de juillet 76 et quand les secours vont découvrir un corps carbonisé dans l'habitation, on va immédiatement penser à une vengeance, celle d'anciens résistants qui venaient de démasquer le discret retraité allemand. Si l'incendie criminel ne fait pas de doute, les enquêteurs vont vite se heurter à bien des mystères. Impossible de savoir si le corps amputé et détruit par les flammes est bien celui du colonel nazi. Pourrait-il s'agir de celui d'un autre homme? L'hypothèse extravagante selon laquelle l'ancien SS aurait pu mettre en scène sa propre disparition va ainsi prendre de plus en plus d'épaisseur. Alors, Pepper, mort ou pas mort? Question posée aujourd'hui à nos invités.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Joachim Pepper, cet ancien colonel SS proche d'Hitler, condamné pour crime de guerre en 1946, avait fini par se faire oublier, retraité discret dans un village de Haute-Saône, là où on va le retrouver à l'été 1976, assassiné dans les décombres fumants de sa maison. Mercredi 14 juillet 1976, 1h10 du matin, un habitant du village de Traves, 375 âmes, à une vingtaine de kilomètres de Vesoul, alerte les pompiers. Il a aperçu la lueur d'un incendie à la sortie de la commune, derrière un rideau d'arbres en bordure de Saône, dans un coin isolé qu'on appelle ici le renfort. La sirène sonne à 3 reprises pour appeler les volontaires. À 1h20, les pompiers de Traves arrivent au renfort, un lieu clôturé et accessible par un seul sentier piétonnier et enfoui dans une épaisse végétation. De la route, on ne distingue d'ailleurs même pas la maison blanche à un étage qui s'y dresse, habité par un couple de retraités allemands, Joachim et Sigurd Pepper, dont le nom figure sur la boîte aux lettres, suspendue au grillage. Le feu fait rage, mais l'autopompe tombe subitement en panne. Il faut appeler les pompiers de Vesoul, qui arrivent peu avant 2h du matin. Ils vident rapidement leur camion, mais aucune borne incendie ne permet de le remplir à nouveau. Le sinistre est impossible à maîtriser. À 4h du matin, la toiture s'écroule. 1 heure plus tard, dans les ruines fumantes et les décombres, pompiers et gendarmes découvrent un corps totalement carbonisé. On pense tout d'abord à un animal. On aurait dit un gros chien, va raconter un témoin. Un cadavre si rétréci, la chaleur du brasier est montée jusqu'à 1400 degrés, qu'il ne mesure que 80 cm. Plus de tête, plus de jambes, des moignons de bras. Il s'agit sans doute du propriétaire, Joachim Pepper. Un incendie criminel, selon les gendarmes. 3 départs de feu sont détectés. Une forte odeur d'hydrocarbures imprègne certains murs. Jeudi 15 juillet, l'incendie meurtrier de Traves fait la une des journaux locaux, mais aussi nationaux. La maison d'un ancien colonel SS est détruite par un incendie, un cadavre dans les décombres, titre le journal Le Monde. Ces dernières semaines, Joachim Pepper, 61 ans, a beaucoup fait parler de lui dans ce coin de Haute-Saône. Moins d'un mois avant sa mort, des inscriptions à la peinture sont apparues sur les murs de Traves. Des tracts ont circulé avec cet avertissement lancé aux habitants. Un criminel de guerre, le SS Pepper Joachim, est parmi vous. Une photo de l'intéressé en tenue de colonel SS est imprimée sur le tract. Le parti communiste a appelé à manifester dans les rues de Vesoul contre la présence de ce criminel nazi. Joachim Pepper a en fait été reconnu 2 ans auparavant par un commerçant à Vesoul, ancien résistant communiste, passionné d'histoire militaire. Quand ce client à l'accent allemand a donné son nom pour une livraison de grillage, le quincaillier a aussitôt fait le rapprochement avec le colonel SS Piper, membre de l'état-major d'Himmler, décoré par Adolf Hitler en 1944, arrêté après la guerre, jugé pour avoir fait fusiller 71 prisonniers américains dans les Ardennes, condamné à mort puis à perpétuité. Piper a fait 10 ans de prison. Puis en 1964, détenteur d'un permis de séjour en France, il a fait construire la maison de Trave pour s'y installer avec son épouse et leur chien. Les gendarmes apprennent que juste avant l'incendie, au moins 8 coups de fusil ont été entendus dans le coin. Des habitants ont cru à des pétards. Ces derniers jours, des journalistes, dont l'envoyé spécial de RTL, avaient réussi à approcher le très méfiant Joachim Piper, devenu indésirable à Trave. « J'ai payé, je n'ai rien à dire d'autre, j'ai payé », déclare-t-il à Paris Match. L'ancien SS ne cache pas son inquiétude. « On a menacé de brûler ma maison », affirme-t-il. Dans ce climat de menaces, Sigurd Piper, l'épouse, avait préféré rejoindre l'Allemagne. Au lendemain du drame, elle revient pour reconnaître le corps. « Je ne peux absolument pas dire qu'il s'agit de mon mari », déclare-t-elle. Et cette déclaration ne va pas manquer d'attirer les interrogations sur l'identité du cadavre qui se trouve dans les décombres du renfort, des doutes qui ne vont cesser de surgir et de se multiplier, d'autant plus que les enquêteurs vont trouver des indices pour le moins curieux sur la scène de crime. Les assassins du colonel SS sont-ils tout près dans ce village de Haute-Saône? Eh bien, on va en parler et on va découvrir tout ça dans la suite de l'heure du crime. Pour l'heure, la seule certitude des gendarmes dans la matinée, c'est que cet incendie est criminel. Bonjour Daniel Seigneur. Merci infiniment d'être avec nous au téléphone aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes écrivain et auteur du livre Joachim Piper, la fin d'une cavale en Franche-Comté, qui a été publié aux éditions Cabedita. Et évidemment, je me suis servi de votre ouvrage, Daniel Seigneur, pour réaliser cette émission, parce que effectivement, il est plein de détails, d'anecdotes et d'informations. Vous avez mené une enquête sur ce personnage. Alors, je le disais, incendie criminel, parce que finalement, il y a eu avant cela toute une campagne de dénigrement contre cet homme qui est retraité, encore une fois, qui n'est pas recherché. Hein. Il a été condamné à une époque, mais là, il est en liberté, Piper, il n'y a pas de souci.
Oui, il n'est absolument pas recherché, d'autant plus d'ailleurs que, il est inconnu même des renseignements généraux. Hein. C'est vous dire aussi que on avait un petit peu perdu sa trace, même pas mal d'ailleurs.
Il y a eu toute cette campagne hein, dans les semaines précédant la mort.
Oui, absolument.
Ça a fait beaucoup de bruit.
Oh, énormément. Ça a fait couler beaucoup d'encre, et puis les radios, la télévision se sont un peu déchaînés sur cette affaire. Donc, ça a commencé par des rassemblements d'anciens résistants exigeait son départ de Trave, etc. Et puis comme la campagne continuait toujours à fonctionner, tout le monde s'y est mis un peu dans cette affaire.
En fait, les villageois et les gens de la région autour de Vesoul, ils sont pas contents qu'il y ait ce personnage chez eux, c'est ça?
Absolument. Oui. Ouais. Pas du tout content. Ça attire trop. C'est un village tranquille. Hein. C'est une région très très bucolique. Hein. La région de Trave. Et bon, on n'aime pas trop être enquiquiné par un va-et-vient de. Et puis il y a ces tracts. Il y a tous ces tracts qui sont d'ici, qui sont. Ouais. Qui sont placardés mais y compris dans les villages proches hein, et puis les inscriptions sur les routes enfin etc
oui. Voilà, donc on le montre du doigt Piper, et effectivement quand cet incendie surgit, c'est pas qu'on n'est pas à moitié surpris, mais enfin on se dit là il y a eu une vengeance, quelqu'un est passé à l'acte après toute cette campagne effectivement qui pouvait le viser. Bonjour Grégory Barbier.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui au téléphone, vous aussi, de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à l'Est républicain et vous avez réalisé ce podcast que je conseille et qu'on retrouve évidemment sur toutes les plateformes, Les grands crimes de l'Est, qui reviennent sur les crimes qui ont marqué la Lorraine et la Franche-Comté. Et vous évoquez dans ces podcasts, il y a un épisode qui est consacré à Piper, Haute-Saône, Piper, l'ancien SS, réfugié dans une forêt. Eh bien justement, Grégory Barbier, à quoi ça ressemble cette maison de Piper? On a l'impression que, Alors, j'allais pas faire l'analogie avec le nid d'aigle du Führer, Adolf Hitler, mais on a l'impression qu'il s'est construit une maison à l'abri des regards, un lieu un peu fortifié en quelque sorte.
Alors, c'est vraiment une maison qui est à l'abri des regards. On la voit pas depuis la route. Il y a un petit talus. Il a construit ça dans les années 60. Son but en venant à Traves, c'était vraiment d'être tranquille. La preuve, c'est qu'il a même pas construit dans Traves. Il a construit à quelques kilomètres de là. On est vraiment au milieu de la forêt. Il a un seul voisin qui est un petit peu plus proche de la route. Mmh. Mais sinon, il est vraiment tout seul, tranquille.
Mmh. Alors, il est tranquille jusqu'à cette campagne. On en parlait avec Daniel Seigneur à l'instant. Cette campagne de tracts, et on l'a démasqué, on l'a découvert finalement. Il est persona non grata dans ce village. Est-ce qu'il vit dans la peur depuis ces menaces qui fleurissent sur les murs de Traves et même dans la région?
Alors, d'un côté, oui, il vit dans la peur parce qu'il sait que tout le monde lui en veut, que ce soit les habitants. Il y a eu aussi tout le retentissement médiatique dont on parlait il y a quelques minutes. Il reçoit des menaces assez précises sur lui, sa famille. Il y a des gens qui téléphonent directement à son domicile alors que pourtant il est sur liste rouge. Donc, normalement, personne ne devrait avoir accès à ça. J'ai retrouvé par exemple une lettre qu'il a écrite à un ami où il dit qu'il fait sa ronde, qu'il a des jumelles, qu'il a un fusil de chasse.
Ah oui, oui.
Voilà, il dit le paisible paradis est devenu une place forte. En fait, il se sent épié, il voit des silhouettes partout. Donc d'un côté, il a peur, mais de l'autre côté, il n'a pas l'intention de se laisser faire, il n'a pas l'intention de fuir.
Enquête ouverte pour incendie criminel et meurtre avec préméditation. Il faut désormais identifier le cadavre. Jeudi 15 juillet 1976, le juge d'instruction de Vesoul est sur place pour une visite des lieux. Juste après l'incendie, les pompiers et les gendarmes ont découvert un curieux fatras devant la porte de la maison. Des documents administratifs, des tiroirs, des classeurs, des vêtements, des sacoches contenant le testament du colonel SS et même un exemplaire de Mein Kampf. Impossible de savoir comment toutes ces affaires se sont retrouvées ici, forcément jetées à l'extérieur de la demeure, mais par qui ? Dans les décombres, les enquêteurs sont encore tombés sur deux armes, un fusil de chasse et un revolver. Elles appartiennent à Piper. Il les aurait récemment ressorties pour pouvoir se défendre d'une éventuelle attaque. À une vingtaine de mètres de la demeure, on découvre une bouteille remplie d'hydrocarbures, un cocktail Molotov qui n'a pas été utilisé. Un trou dans un grillage est repéré, un lambeau de tissu est resté accroché, un paquet de cigarettes a été oublié. La piste mène à travers les arbres, un deuxième grillage, lui aussi cisaillé, qui débouche sur la route. Les incendiaires ou Piper lui-même sont-ils passés par là? Les témoins indiquent n'avoir entendu aucun des deux chiens de l'ancien SS aboyer cette nuit-là, alors qu'ils réveillent tout le voisinage à la moindre visite. Les chiens de Piper sont retrouvés errants au lendemain de l'incendie. L'un d'eux a été blessé par une décharge de fusil de chasse. Mardi 20 juillet 76, les légistes informent le juge qu'ils sont dans l'impossibilité de confirmer que la dépouille carbonisée et celle de Joachim Piper. L'autopsie, les radiographies n'ont pas décelé de traces de projectiles dans le cadavre. De la fumée est présente dans les poumons. Les médecins estiment que la victime est morte brûlée vive. L'autopsie relève une fracture de l'omoplate, mais elle a été causée par la chute du toit. Un trou dans la poitrine a lui été occasionné par l'éclatement du sternum. Plus de bras. Impossible donc de voir si la victime portait le fameux tatouage des SS, leur groupe sanguin. La dentition ne livre pas d'indices, le maxillaire inférieur est absent, le supérieur en grande partie détruit. Le résident allemand avait une dent en or, mais on n'en trouve aucune trace. Même fondue dans la fournaise, elle aurait dû pourtant laisser des résidus. Trois experts en identification judiciaire sont désignés. Des spécialistes qui ont déjà travaillé sur l'incendie de la boîte de nuit le 5-7, 146 morts. Et sur le crash d'un avion de la Turkish Airlines dans l'Oise, 346 victimes. Le signalement de Joachim Piper est communiqué à Interpol au cas où il serait encore vivant. La fosse septique de la maison est sondée. Pendant des jours, des plongeurs de la gendarmerie explorent la Saône. Les enquêteurs retiennent la piste de la vengeance d'anciens résistants ou de justiciers. Un ami de Piper révèle une lettre qui lui a récemment adressé l'ancien SS. « Mon tranquille paradis est devenu un camp retranché, je vais donc déménager si les communistes me permettent d'attendre jusque-là », écrit Piper. Un restaurateur de Vesoul, Jacques de Laval, ancien maquisard, est longuement entendu par la PJ de Dijon le soir de l'incendie. Il avait accroché devant son établissement un panneau avec cette inscription « 13 juillet, feu d'artifice à Traves ». Il est finalement relâché. Le 31 juillet, quatre jeunes gens de Grès, une commune du coin, sont également placés en garde à vue. L'un d'eux avoue le crime, mais rien ne va dans son récit. La fabule, les quatre suspects sont libérés. « Jamais nous n'aurions pu faire ça. Un mec comme Piper ne pouvait pas se faire avoir par quatre blaireaux comme nous », dira bien des années plus tard l'un d'eux à l'Est républicain. Enquête qui n'est pas terminée, mais on voit tout de suite que les investigations se concentrent sur le cadavre dans la maison. Les auditions vont se poursuivre avec l'apparition dans le paysage d'un autre Allemand qui vivait juste en face de Piper. C'est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Quel rôle aurait-il joué dans cette histoire? C'est pas inintéressant, on va voir ça dans la suite de l'heure du crime. Examinons pour le moment cette scène de crime et ses indices. On rejoint l'un de nos invités, c'est Grégory Barbier, journaliste à l'Est républicain. Grégory Barbier qui connaît bien cette affaire puisque vous l'avez traité, Grégory, dans votre journal l'Est républicain à travers une série de podcasts et dont l'un est consacré à Piper. Alors, on ne comprend pas très bien, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup d'indices disparates sur cette scène de crime. Il y a des affaires qui sont à l'extérieur de la maison, qui ont été jetées. On retrouve les armes de Piper à l'intérieur. On sait que l'incendie est criminel. On a un peu de mal à suivre ce qui s'est passé. On a du mal surtout à comprendre comment lui, le colonel SS, qui a tué des hommes pendant la guerre, il se serait laissé comme ça piéger dans l'incendie.
C'est vrai que c'est une grosse interrogation quand même de savoir comment est-ce que lui, colonel SS, préparé avec des armes en plus, hein. Il
s'est
réfugié chez lui, il faisait des rondes de nuit, il avait deux gros chiens aussi. Comment est-ce que quatre jeunes gens qui seraient venus comme ça auraient pu l'assassiner? Après, il y a plein d'indices, mais on n'a jamais fait le rapprochement, on n'a jamais tout remis sur la table et vraiment fait un scénario qui tienne la route.
Bien sûr.
On a un morceau de tissu qui est accroché au grillage, on a un cocktail Molotov qui n'a pas brûlé, on a, vous le disiez tout à l'heure, tous ces livres qui ont été sauvés de la bibliothèque. Ça, on peut imaginer que Piper a tenté de les sauver de sa bibliothèque au moment où sa maison brûlait. Il y avait notamment un exemplaire de Mein Kampf dédicacé par Hitler lui-même qu'il a peut-être voulu sauver. Est-ce que il a été distrait par ça et que les autres en ont profité? Est-ce que le toit est tombé très vite sur lui et il n'a pas pu s'en sortir ou se servir de son arme?
Bien sûr.
Là, c'est difficile d'avoir un scénario précis.
Et c'est ce qui fait évidemment le mystère de cette histoire. Parce que dès le début, on hésite et on se perd un peu en conjecture. Daniel Seigneur, vous êtes vous écrivain, vous êtes auteur du livre Joachim Piper, La fin d'une cavale en Franche-Comté, qui est publié, on l'a dit, aux éditions Cabedita. Daniel Seigneur, il y a ces trous, vous l'écrivez dans votre livre, il y a les trous dans le grillage. Il y a deux grillages qui forment le mur d'enceinte de cette maison où vivait Piper. On ne sait pas du tout qui est passé par là.
Parce que vous dites, absolument pas.
Vous dites que ça peut être les incendiaires comme Piper lui-même.
Comme Piper lui-même, mais je ne vois pas très bien Piper cisailler, ses clôtures, alors qu'il y avait certainement d'autres voies pour s'en échapper. Oui, ça reste aussi, bien sûr. L'affaire des grillages qui ont été sectionnés reste aussi un des mystères de l'affaire. On a retrouvé, je crois, là aussi un paquet de cigarettes, je crois.
Tout à fait.
Voilà, et puis Monsieur Barbier l'a dit, il y avait d'autres petits indices, mais qui n'apportent finalement rien. Le gros problème de tout ça, c'est que à cette époque-là, il n'y avait pas donc d'ADN. C'est le gros point qu'il aurait fallu évidemment et pouvoir éclaircir l'affaire. Ça aurait certainement changé la face des choses.
Bien sûr. Et justement, Daniel Seigneur, pourquoi ces analyses du corps sont-elles si compliquées? Alors, il est vraiment carbonisé, ce corps, hein. Il faut un petit peu le décrire.
Oui. Alors oui, en fait, fait, effectivement, à y regarder d'un peu plus près, parce que les premiers témoins qui découvrent le corps disent qu'il ressemble une sorte à un gros chien ou un sanglier, que sais-je. Mm. Mais à y regarder de plus près, il s'agit bien d'un corps humain, puisque, en fait, les autopsies qui vont suivre vont révéler une prostate, par exemple. Hein,
ouais, c'est ça. Clair. Donc on sait que c'est un homme, et effectivement, on pense que ça ne peut être que Piper, mais on n'en a aucune preuve. Grégory Barbier, alors évidemment, le bruit court dans ce village, et puis aussi à Vesoul, la grande ville voisine, que ce sont des gens du coin qui ont pu faire ce coup. Ils ont effectivement vengé la mémoire de la résistance, ils ont tué Piper. Et il y a un homme qui va apparaître en première ligne, c'est le restaurateur de Vesoul, Jacques de Laval, c'est bien ça ?
Oui, alors il va être cité, il va faire partie des premiers suspects à cause d'une pancarte. C'était une pancarte où il avait écrit devant son restaurant « 13 juillet, feu d'artifice à Traves ».
C'est ça, bah c'est pour le moins troublant quand même. Hein.
Alors c'est troublant parce qu'il faut se rappeler qu'en 1976, en plein été, on est en pleine canicule, que tous les feux d'artifice de la région ont été annulés. Donc forcément, cette pancarte, elle n'est pas dénuée d'arrière-pensée. La référence à la grogne contre Piper est assez évidente.
Et maintenant, donc, allez-y.
On ne sait pas si c'était une blague de plus. Il y a quelques années, son fils avait été interrogé par l'Est républicain. J'ai retrouvé l'interview. Et même lui, il hésitait entre le côté patron blagueur, mais aussi le côté ancien résistant qui avait été très actif durant la Seconde Guerre mondiale. Mais on ne saura jamais, il est mort en emportant son secret il y a quelques années maintenant.
Et il faut dire, Grégory, vous connaissez bien cette région et ce coin, puis vous avez enquêté beaucoup sur cette affaire. À l'époque, effectivement, ça fait jaser. On se regarde un petit peu tous en travers, parce qu'on se dit, après tout, les assassins de Piper, ils sont là, ils sont devant nos portes.
Oui, alors en plus Traves c'est un tout petit village, on se dit que quelqu'un qui a pu aller jusque chez Piper, qui a pu, on disait tout à l'heure que la maison de Piper elle était vraiment un peu cachée dans les bois, quelqu'un qui a pu y aller c'est forcément quelqu'un qui connaît bien le coin. Il y a des gens qui voulaient aller chez Piper, des amis à lui qui n'ont jamais trouvé la maison, qui ont tourné pendant des heures et n'ont jamais trouvé la maison. Quelqu'un qui a pu y aller, c'est forcément quelqu'un qui était du coin, qui connaissait la maison, qui a su s'y introduire.
Et qui connaît le coin. Investigation qui continue à un rythme soutenu, un autre SS va retenir l'attention.
Méritait-il cette mort ? Je crois que sa présence a été jugée comme un défi. Ce sont des gens de la région qui ont lancé ce défi à Piper et qui n'ont pas supporté que Piper reste dans la région, d'anciens résistants peut-être. C'est plus qu'une exécution, c'est quand même un crime.
Les enquêteurs s'intéressent au voisin le plus direct de Joachim Piper. Erwin Ketelut habite un ancien moulin non loin de la maison du crime. Par le plus grand des hasards, il est lui aussi allemand et surtout ancien officier SS avec le grade de chef d'assaut. Les deux hommes se connaissent bien, mais Ketelut est peu bavard. Le 14 juillet à 5h du matin, quand le corps a été découvert dans la demeure du renfort, les gendarmes sont venus le chercher pour l'identification. Devant la dépouille, il a tout de suite déclaré « C'est bien lui, il est miniaturisé !» Ajoutant « Piper était mon meilleur ami et j'étais prêt à tout pour risquer de le sauver. » Erwin Ketelut est réentendu. Il partageait beaucoup de secrets et de confidences avec Piper. Selon lui, la veille de sa mort, le colonel SS se serait senti en danger. « Il m'a dit qu'il n'avait plus qu'à mourir », affirme Ketelut. Il lui a alors proposé de l'aide, mais son ami lui a dit qu'il pouvait se défendre tout seul avec ses chiens. La nuit du drame, Ketelut, qui était censé faire le guet, déclare s'être couché à 23h, il a pris un somnifère. Il n'a rien vu, rien entendu, ni les détonations des cartouches tirées par des fusils et pistolets, ni les tuiles qui tombent, ni le ronflement de l'incendie qui faisait rage, s'étonnent les enquêteurs dans un rapport. Simon Wiesenthal, le plus célèbre chasseur de nazis du moment, estime que Joachim Piper pourrait très bien avoir mis en scène une mort fictive, une technique déjà éprouvée par des criminels de guerre dont les décès ont été annoncés, mais dont les cadavres n'ont jamais pu être identifiés. Dans le cas présent, Paper n'était pourtant pas en cavale, il n'était pas recherché. Le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est excédé par ce mystère. « Il faut la sortir, cette affaire », déclare-t-il. Et effectivement, à cette époque, même les plus hautes autorités s'intéressent à cette affaire bien mystérieuse et qui commence à empoisonner le climat en France. Daniel Seigneur, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes l'auteur d'un livre, Joachim Piper, « La fin d'une cavale en Franche-Comté ». Vous connaissez bien cette affaire et vous avez enquêté sur le sujet. Un petit mot là-dessus, justement, sur le mot de Valéry Giscard d'Estaing. Il faut la sortir, cette affaire. Alors, la sortir, il y a deux possibilités. C'est soit l'élucider, ou bien alors, tout simplement, refermer le dossier. Sortir cette affaire. Qu'est-ce qu'il veut dire, le président ?
Moi, à mon avis, je pense que il voulait quand même connaître un peu la vérité des choses. Mmh. Bon, maintenant, évidemment, on peut pas exclure que... Il désirait tout simplement fermer, comme vous dites, le dossier. Hein. Mm. Mais bon, là, on n'a pas de propos particuliers de la part des politiques à ce sujet-là. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il était très irrité de cette affaire.
Oui. Et les autorités, Daniel Seigneur, elles sont irritées parce que la police, elle travaille beaucoup sur le sujet et ça commence à irriter tout le monde. La justice, la police, on ne comprend pas.
Ben on comprend rien, les jours s'écoulent, on fait investigation sur investigation, et puis en définitive, on relève toutes les hypothèses. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de substitution de cadavres, soit c'était... Alors on a parlé d'un vagabond que Piper aurait enfermé, etc., et que à l'heure de son départ, sur un pseudo-départ, on va dire, il s'agirait plutôt du cadavre, donc, d'un vagabond. Et c'est puis, ça, on a aussi émis l'hypothèse que le groupe Piper, qui soutenait l'intéressé, aurait apporté d'eux-mêmes aussi un cadavre. Enfin, toutes les hypothèses ont été émises dans cette affaire. Mais on retient quand même l'idée forte, c'est que ça correspond bien quand même, malgré tout, à la description de Piper.
Alors oui, ça correspond, mais enfin, on est sûr de rien, il faut bien le préciser, ça c'est important. Et vous parlez du groupe Piper, effectivement, à cette époque, va surgir, un petit peu de manière clandestine, un groupe de soutien à la mémoire de Piper. Ils vont se réunir en Allemagne, et puis ils vont effectivement, on va dire qu'ils ont aidé peut-être à la sortie de Piper de sa maison. Grégory Barbier, vous êtes journaliste à l'Est républicain. Alors il y a ce témoignage qui est pour le moins troublant et curieux, c'est celui du deuxième SS qui habite à côté de chez Piper, c'est son meilleur ami, Ketelut. Lui, alors il parle, mais à demi-mot, hein. Il dit tout et son contraire.
Oui, alors d'abord, ce qui interroge, c'est qu'il n'ait pas entendu les coups de feu. On sait qu'il y a 8 coups de feu qui ont été entendus au début de la nuit. Ils ont été entendus jusqu'au village de Trave, donc il y a plusieurs kilomètres de là. Et lui, qui est à quoi, quelques centaines de mètres à peine, il dit qu'il n'a rien entendu. À un moment, il dit aussi dans ses déclarations qu'il est sorti sur sa terrasse, mais qu'il n'a rien vu de spécifique en direction de chez Piper. Après, il dit aussi qu'il s'est couché après avoir pris un comprimé pour dormir, donc peut-être que tout ça, c'est dû juste à son somnifère.
Oui, c'est quand même troublant. Je suis d'accord avec vous. On peut que s'interroger. On n'a pas l'impression qu'il dit la vérité, cet homme. Et puis ensuite, il a également dit qu'il protégeait Piper. Hein, il avait promis qu'il le protégerait.
Il avait Piper lui en avait parlé. Il avait dit qu'il allait monter la garde, qu'il allait l'aider à le protéger, puisque Ketelut, lui, il est carrément au bord de la route, il est proche de la route. Donc forcément, si quelqu'un vient en voiture,
le
premier informé, c'est lui. Mais il a quand même pris un somnifère.
Le corps carbonisé va être expertisé pendant de longs mois avant d'être rendu à la famille. Mardi 24 mai 1977, le tribunal de Vesoul délivre l'acte de décès de l'ancien SS Joachim Piper, déclaré officiellement mort dans l'incendie de sa villa de Trave, dans la nuit du 13 au 14 juillet 1976. Le tribunal note dans son jugement qu'il n'existe pas de preuve absolue du décès de Joachim Peiper, mais ajoute que les présomptions sont suffisamment fortes pour qu'il soit possible de considérer ce décès comme certain. Le 31 juillet, un corbillard emporte en Allemagne les restes du corps. Ces derniers ne sont pas remis immédiatement à la veuve Sigurd et à la famille. Ils sont longuement analysés par les légistes de l'Institut médical de Munich. Expertise qui n'apporte aucune révélation. Les cendres de l'ancien SS sont finalement entreposées dans la tombe familiale à Schondort, en Bavière. Vendredi 23 juin 78, l'écrivain Georges Arnaud, auteur du Salaire de la peur, est entendu par le juge de Vesoul, Christian Nannini. Georges Arnaud a réalisé un documentaire sur la mort inexpliquée du colonel SS. Il affirme que le cadavre retrouvé dans la maison de Trave n'est pas celui de Joachim Peiper. Arnaud affirme tenir cette information d'une source dont il ne peut révéler le nom. Selon le documentaire, les rapports des trois légistes seraient erroné. Le juge Nannini reste sur sa faim. 1er juin 1982, après 6 ans d'enquête, un non-lieu est délivré. En dépit de très nombreuses investigations, il n'a pas été possible de découvrir les auteurs de cet acte criminel. L'information permet raisonnablement de conclure que le corps est bien celui de Joachim Peiper, écrit le juge. Alors, un non-lieu, certes, mais pas de certitude absolue. On se demande toujours à qui appartient ce corps retrouvé dans les décombres. Daniel Seigneur, effectivement, la question, elle reste en suspens avec ce corps qui n'est pas formellement identifié. Il y a quelque chose d'intéressant, et vous le racontez dans votre livre, c'est que Peiper, mais c'est de bonne guerre dès lors qu'il y a une disparition de quelqu'un qui est célèbre, hein, on pense évidemment à Dupont de Ligonnès, mais on va le voir partout, Peiper. Il va apparaître un peu partout. Il écrirait même des lettres. C'est bien ça, Daniel
Seigneur?
Oui,
tout à fait. Oui. Certains témoignages disent que certaines personnes recevaient des cartes postales en particulier. Voilà. Je voudrais juste ajouter un petit
Allez-y.
Point à propos de Derwin Kettenhut. En fait, il est mort à 80 ans, je crois. Il est décédé en 1999 et il a emporté avec lui ses secrets dans la tombe, naturellement. Mm. Oui, pour revenir à votre question, ben oui, parce que ça jase toujours, ça continue à jaser. Mais l'affaire, à partir du moment où il y a eu un non-lieu qui a été prononcé, bon, je ne sais pas trop aujourd'hui si on en parle. Tout ce que je peux encore ajouter, c'est qu'en fait, les ruines de la maison, sa maison au renfort n'a jamais fait l'objet d'une réclamation de la part de la famille. Mmh. Et puis, chose un petit peu curieuse, elle fait l'objet aussi de rencontres de personnes qui croient au paranormal.
Ah oui,
ça m'a beaucoup amusé, cette histoire, voilà.
Mais ça aussi, Daniel Seigneur, c'est vrai que c'est une habitude, dès lors qu'il y a, entre guillemets, un cadavre célèbre, on retourne sur les lieux, parfois, du crime.
Oui, bien sûr, je suis allé moi-même. La curiosité l'a emporté.
Il y a la curiosité, parce qu'effectivement, c'est une affaire exceptionnelle et qui reste encore un petit peu pleine de mystères. Grégory Barbier, vous êtes journaliste à l'Est républicain et vous êtes également l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous vous intéressez à cette affaire, vous avez enquêté, il y a un podcast de l'Est républicain qui est consacré d'ailleurs à cette affaire. Je le disais, non-lieu, mais pas de certitude absolue. On a l'impression que quand la justice se prononce, elle se prononce à reculons et que ça a été très long à trancher.
Oui, alors déjà, elle met très longtemps avant de trancher, de rendre des rapports. Et on a l'impression, moi, tout ce que j'ai lu des rapports, on a l'impression qu'on prend des précautions infinies. Le cadavre est très certainement celui de Peiper. Pas de preuve absolue que c'est le cadavre, mais une très forte présomption. On a l'impression que les experts, ils ne veulent pas prendre une position ferme pour dire oui, c'est Peiper. Après, c'est peut-être aussi à cause de l'état du cadavre. Il reste 80 cm des cendres, pas de visage, pas de bras, pas de jambes. Est-ce que c'est pas difficile de conclure formellement quand on a que ça, oui, ça peut être aussi une explication.
Je suis d'accord avec vous, Grégory Barbier. Il y a quand même quelques détails qui sont toujours troublants. Il avait une dent en or, Piper. Même si elle avait été fondue, on aurait retrouvé des résidus. On ne retrouve absolument rien.
On retrouve absolument rien. C'est vrai que sa dent, normalement, alors même si elle avait fondu, puisque l'or fond à 1000 degrés et l'incendie de la maison est sans doute monté jusqu'à 1400, on aurait dû retrouver des résidus d'or quelque part. Ça fait partie des interrogations qu'on a sur ce cadavre.
Pas de certitude, sauf pour la famille de l'ancien SS. Il est bien mort dans l'incendie, dit-elle. Dimanche 11 juillet 2021, 45 ans après la mort trouble de Joachim Piper, son petit-fils, Constantin Piper, s'exprime dans le journal L'Est Républicain. Il assure que la famille n'a jamais eu aucun doute sur le décès. C'était bien lui qui est mort à Trave, c'est certain. Le reste, ce sont des théories conspirationnistes qui méritent de finir à la poubelle, déclare-t-il. La villa du Renfort à Trave n'a jamais été reconstruite. Les ruines se dressent toujours en bord de Saône, peu à peu envahies par la végétation.
Que dois-je faire ? J'ai rien à cacher et je n'ai pas besoin de me défendre. S'ils m'attaquent, il y a une police française de me protéger, je pense. Et j'ai l'impression que je suis ici dans une région où... le droit et l'ordre est soutenu.
Et ça, c'est un document exceptionnel, c'est un document RTL, la voix de Joachim Piper, quelques jours, avant qu'il périsse normalement dans cet incendie, même si on ne sait pas si c'est vraiment son corps. C'était Jean-Michel Bézina qui était à l'époque envoyé spécial de RTL dans la région. Il y a ces certitudes du petit-fils de la famille, Grégory Barbier. C'est votre journal, L'Est Républicain, vous êtes journaliste à L'Est Républicain, c'est votre journal qui a recueilli ces propos. La famille, elle est catégorique. Oui, c'est bien lui, il n'y a pas de souci, et le reste, tout ça, c'est de l'invention.
Alors oui, le petit-fils que ma collègue Éléonore Tournier avait rencontré dans le cadre d'un dossier il y a quelques années, il est catégorique. Pour lui, c'est de l'invention. Son grand-père est mort. Il a eu aucun indice ou quoi que ce soit disant que peut-être que il aurait pu s'échapper. Et dans l'interview, il parle même de ses parents qui étaient des fils de Joachim Piper. Qui était plutôt sympathisant nazi. Donc on peut imaginer que s'ils avaient été assez proches, ils auraient pu quand même avoir des nouvelles. Son petit-fils aurait pu avoir des nouvelles de Joachim Piper s'il était vivant. Et là, rien du tout.
Il n'y a rien dans cette famille, effectivement. Daniel Seigneur, vous avez écrit un livre sur cette affaire. Joachim Piper, La fin d'une cavale en Franche-Comté, publié aux éditions Cabedita. Livre très documenté. Vous avez mené cette enquête sur ce personnage, Joachim Piper. On entend, c'est étonnant, hein, la voix de Joachim Piper, qui parle très bien français.
Oui.
Et qui dit que il fait confiance aux autorités pour le protéger.
Oui.
Mais on sent aussi une espèce de crainte dans ses propos.
Oui, parce que, enfin, vous dites qu'il parlait bien le français, bon, vous savez.
Pas si mal, quand même.
Pas si mal que ça, mais c'est ce qui l'a trahi, d'ailleurs, hein, quand il a été reconnu. Hein.
Exact.
Je pense qu'on n'avait pas eu le temps d'évoquer la manière dont il a été reconnu, mais voilà, c'était surtout à cause de son accent. Parce que la personne qui était en face de lui, qui est en fait le quincailler qui lui a vendu le grillage pour l'oncle de ses chiens, était un érudit en matière aussi d'histoire. C'était d'ailleurs un ancien résistant. Hein. Et quand c'est là où il s'est fait piéger, Piper donne son nom et son adresse quand le quincailler lui demande où livrer la marchandise. Et c'est là qu'il fait un rapprochement avec le SS Sturmbannführer Piper. Car son phrasé est imprégné d'un accent allemand quand même.
Bien sûr. Et alors, Daniel Seigneur, il y a une question moi, qui revient en boucle, hein, elle a animé toute cette émission, et effectivement, je tourne autour depuis le début de cette émission. Comment Paper se serait-il laissé attaquer et serait mort sans se défendre? Il avait des armes avec lui, il avait des chiens. Comment imaginer que cet homme qui est habitué au combat, à la guerre, qui a tué des dizaines de personnes et qui en a fait tuer des dizaines d'autres, il serait resté comme ça, comme un pauvre innocent dans sa maison?
Ça oui, c'est aussi un des mystères les plus absolus, hein. C'est sûr que ce type était bon, avait comment dirais-je, au cours de la guerre, il s'est distingué par sa combativité.
Tout à fait.
Et on peut difficilement expliquer qu'il ait pas su se défendre alors qu'il était intervenu sur tous les fronts de la guerre. Hein. Mmh. En Russie, en Italie, en Belgique, puis pendant toute la bataille de Normandie, à la tête de ces unités d'infanterie blindée. Hein.
Oui, et ça, effectivement, ça reste un immense mystère. Juste un petit mot, Daniel Seigneur. Vous en pensez quoi? J'ai cru comprendre que vous disiez, pour vous, Paper, il est mort dans la
maison. Oui, moi je pense, parce que c'est vrai que le témoignage de son fils Constantin... sans prétendre qu'il est catégorique, hein, mais vous savez, hein, moi j'ai suivi aussi très près, j'en ai discuté avec Madame Tournier, là, hein, je l'ai appelée personnellement pour avoir un peu plus de détails, et il y a eu quand même dans les premières années, parce que finalement, le Constantin, il avait quoi? Il avait deux ans, hein,
oui, oui.
Au moment du décès de son père. Et donc, en fait, il y a eu une sorte d'omerta quand même.
Oui, bien sûr. Et cette omerta, elle plane sur toute l'affaire. Je termine cette émission avec vous, Grégory Barbier. Juste un petit mot. Vous dites que c'est le nazi Piper, il est dans les décombres, c'est lui?
Moi, je pense, pour le peu que j'ai enquêté dessus, qu'il est dedans. C'était il y a presque 50 ans. Personne ne l'a vu réapparaître ailleurs.
C'est ça.
On a bien vu d'autres nazis qui ont été pourchassés et retrouvés, ne serait-ce même par hasard.
C'est pas possible. Effectivement, personne ne l'a vu après. Et ça laisse planer le doute. Merci infiniment, Grégory Barbier et Daniel Seigneur, d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vignot, préparation Marie Bossard, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.